Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanu
et bienvenue dans cette 38e émission,
édition 2023.
Encouragée par la présence des missionnaires catholiques aux Marquises, présence qui est politiquement désirée à Paris, le gouvernement du roi Louis-Philippe a décidé de donner un coup de main à la mission en prenant possession de l'archipel en mai et juin 1842. Le lendemain de la cérémonie de prise de possession à Taiohae, Max Radiguet, secrétaire de l'amiral du Petit Thouars, et d'autres officiers décident d'aller visiter le bord de mer. J'ai trouvé intéressant de vous faire part de ce qu'il a écrit aux pages 83 et suivantes du chapitre 5 de son journal, dont je vous fais maintenant la lecture.
La rade de Taiohae s'ouvre du sud au nord. Elle a plus de 2000 de profondeur. Au point de vue maritime, elle offre un excellent abri. Le mouillage y est sûr, l'entrée facile, les brises de terre y règnent avec une régularité satisfaisante et le louvoyage ne laisse à éviter aux navigateurs que des dangers visibles et par conséquent peu redoutables. Un peu en avant se trouve la baie de Hakapehi, que termine le mont Tuhiva, s'avançant en promontoire. Derrière la plage sablonneuse de cette baie, le sol s'élève avec une pente douce jusqu'au versant de la montagne. Aride et fauve comme une peau de lion dans le sud, ce versant est accidenté de saillies rocheuses et de déchiquetures triangulaires qui, dans la partie supérieure, s'ouvrent, semblables à des soupentes de toits affaissés. C'est ce qu'on peut voir au-dessus du cimetière de Hakapehi, tous ces trous dans la montagne et ces espèces de grottes dans la roche très tendre. C'est dans cette partie de la baie voisine du mont Tuhiva que notre compagnie de débarquement dressa d'abord ses tentes. Et c'est sur le morne même, la colline, que s'ouvrirent les travaux préparatoires d'une batterie de canons. La baie de Taiohae commence au mont Tuhiva. Dès les premiers pas, on rencontre une case élevée sur une terrasse de gros cailloux.
C'est là que vivait jadis
cette radieuse Paetini dont porteur célèbre la beauté avec enthousiasme.
C'est donc là tout de suite, en quittant Tuhiva, en descendant vers le village, que se dressait parmi d'autres le Pai Pai et la maison de Paetini, petite-fille de Kiatonui, mère de Apekua et de Vaikehu, respectivement première et dernière épouse de Temoana. Un peu plus tard dans son journal, Radiguet nous raconte que vivaient toujours sur ce Pai Pai deux de ses Pekio,
ou mari secondaire, qui se nommaient Teiki et Makiyu.
De passage à Taiohae fin 1843, le journaliste français Edmond de Ginoux de la Coche écrit que l'un d'entre eux se nomme Maki et qu'il est artiste-sculpteur.
Un peu plus loin, une aiguade éparpille ses eaux en touchant à la grève et sur sa berge droite, un bouquet d'hibiscus recèle un morail assez pittoresque. Ce que les Français appellent un morail, c'est un site funéraire. Ça veut dire que là, on se trouve sur le site de Vainaho.
Et il faut savoir qu'une des étymologies du mot Vainaho, c'est l'eau pour masser. Pour masser, avec des onguents, les cadavres qui étaient exposés non loin et dont Radiguet va nous parler.
Et l'aiguade dont il parle, c'est le ruisseau maintenant sec qui autrefois coulait abondamment. Le petit ruisseau qui longe par le bout le syndicat d'initiative, qui est maintenant un simple caniveau. Donc ça veut dire qu'en allant vers le village, à droite de ce petit caniveau en regardant la mer, et en allant jusque devant l'ancienne mairie, c'est-à-dire à peu près devant les boutiques, il y avait un site funéraire qu'il va nous décrire. Quatre pieux dressés sur une plateforme supportaient un petit plancher recouvert d'un squelette qui peut-être fut la belle-fille de la case voisine. Il parle de Paetini. Des faisceaux de longues baguettes blanches revêtues de tresses jaunes et rouges étaient accolés au montant. Aux deux côtés, De la plateforme, deux pierres levées, hautes de 3 mètres et semblables au menhir breton, faisaient un ornement exceptionnel à ce morail. Encore un détail extrêmement intéressant. Des deux pierres dont il parle, une seule est toujours debout, toujours à l'endroit dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à peu près côté mer, face au parking.
C'est en 1838 qu'on entend parler de cette pierre levée pour la première fois. Au passage de l'expédition de Dumont-d'Urville, l'hydrographe français Vincent Don Dumoulin lui donne le nom de Pierre Marchand, en l'honneur du premier français à avoir vu Nukuhiva en 1791. Mais cette pierre a un nom marquisien, qui est Tekeakamoa et Tekoata, la pierre volée par les fourmis, car la légende raconte que ce sont les fourmis qui l'ont apportée en une seule nuit de Wapoo. Lorsque je suis arrivé aux Marquises en 1995, cette pierre levée était ornée d'une plaque de cuivre racontant le passage de Marchand à Nukuhiva. Cette plaque a été volée en 2007 sans jamais être retrouvée ni remplacée. Pour en revenir à 1838, quand Vincent Don Dumoulin décrit le site, il parle d'une hutte funéraire entourée de poteaux sur lesquels flottent des bandelettes de tapas et en son centre, la fameuse pierre levée enveloppée de tapas. Aujourd'hui, seule la pierre de Marchand subsiste, mais sans sa plaque.
Depuis l'endroit où se trouve ce site funéraire, et en se tournant vers la colline Tuhiva, il est intéressant de savoir que, à cet endroit-là même,
un ou deux ans plus tard peut-être, Radiguet a dessiné ce qu'il voyait. Et outre le fort Collet terminé et la colline Tuhiva que l'on voit très nettement,
on voit aussi, entre la rivière Vainaho et l'espace occupé désormais par le syndicat d'initiative, le Faré artisanal et aussi le petit marché, cet endroit-là était recouvert de paille-paille avec des maisons dessus qui ont dû être démolies, peut-être à une époque où on a construit des entrepôts quand le copra a commencé à devenir intéressant.
Max Radiguet continue.
Quand on a marché pendant un mille alternativement sur une plage de sable, sur des galets, sur un sol rocailleux, laissant à sa droite des massifs de pandanus, de hao et de goyavier, où sont disséminées quelques cases perdues dans l'ombre, on rencontre un ruisseau accouru du fond de la vallée. Non loin de son embouchure, un immense figuier de banyan déploie ses branches horizontales, feuillues impénétrables au soleil, et couvre une circonférence de 50 mètres de rayon, ce qui fait un diamètre de 100 mètres pour cet arbre immense. En 1839, à l'arrivée des missionnaires en février, vous vous souvenez que Mgr Rouchouz avait acheté un terrain en bas de la vallée Pakiyu, près de la rivière Vaikeu, à l'emplacement de la résidence de Monseigneur. C'est là que se dressait cet énorme banyan. Qu'est-ce qui le prouve? Eh bien, c'est la fameuse carte de Taiohae de 1905, dont je vous ai parlé, qui est conservée dans les archives du Vatican et qui a été dressée par les missionnaires de l'époque. Et sur cette carte, ils ont écrit que ce banyan s'appelait le grand banyan dit figuier de Dumont-d'Urville, dont Radiguet parle. Donc ça ne peut pas être un autre arbre.
Il existe aussi plusieurs gravures, consultables sur Internet, sur lesquelles l'arbre est dépeint et dessiné. De nos jours, quelques personnes âgées se souviennent des crânes que l'on pouvait y voir suspendus à des branches, mais personne n'a su me dire quand il a disparu, quand il a été détruit, peut-être brûlé.
Et Radiguet continue de décrire cet arbre. « Tout un peuple turbulent d'oiseaux hante cet abri séculaire. » Les colombes aux ailes vertes, à la gorge écarlate, c'est-à-dire rouge, la tête ornée d'un plumage du plus beau carmin, toujours rouge, des perruches semblables à un ingénieux ouvrage d'émail, où on aurait serti des turquoises, des saphirs et des aigues marines pour en former un corps d'oiseau monté sur des pattes de corail. L'oiseau dont il parle, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est le coucoupa des Marquises. Il faut savoir que le nom scientifique de ce coucoupa endémique des Marquises a été donné par l'amiral du Petit Thouars, et donc cet oiseau porte désormais le nom scientifique de
Ptilinopus du Petit Thouarsii, en français Ptilope du Petit Thouars, de la famille des Colombidés. Il est aussi communément appelé pigeon vert aux Marquises.
Il continue, ces oiseaux remplissaient de joie cet asile fortuné jusqu'au jour où la bande avide des collectionneurs fit sans pitié pleuvoir sur l'herbe comme des fruits lumineux les charmants petits hôtes de ce bosquet. On en fit un vrai massacre. Aussi, quand un mois plus tard nous venions près des eaux murmurantes, sous le dôme gigantesque du banyan, chercher un refuge contre les dévorantes ardeurs de midi, nous y trouvions des moustiques sans nombre, mais fort peu d'oiseaux. Ceux qu'avait épargné la fusillade avaient fui l'asile violé.
Eto uati e nana ia hata oi Hawaii ia mai to o e noa iho vai mata Eto uati e nana ia hata oi Hawaii ia mai to o e noa iho vai mata He mai ato me to ato wāwo E to o to o e he nua To o e kuhane, to o e houpo Atu, atu No o e tene he nua Atu Uati e nana ia hata oi Hawaii ia mai to o e noa iho vai mata e to uati e nana ia hata oi Hawaii ia mai to o e noa iho vai mata He mai ato me to ato pakai higo e Wawahi ta oi ha tupuna Ta oe ia e umihine I tene ia Atu, atu No oe tene he lua Atu
C'est particulièrement ce côté nord de la baie que la végétation envahit, active et puissante. De toutes parts se dressent des hauts Barringtonia, les Hutu, et des hibiscus, les Hau, Fau, qui étalent des fleurs blanches et jaunes comme un trésor de sequins et de piastres parsemés dans leur verdure. Le Gardenia, criblé d'étoiles odorantes, y traîne jusqu'à terre. Des arbres plus communs, les ihi, ou châtaigniers polynésiens qu'on appelle à Tahiti des mapé, les mûriers, les outé, se rassemblent en taillis compacts. Les arbres à pins, les tumumei, s'étalent à l'aise sur de larges terrains où ils forment de vrais futaies. Les cocotiers en nombre aussi considérable surgissent de partout et au moindre souffle de la brise balancent leur panache vert et entrechoquent leurs fruits à l'extrémité d'une tige argentée qui d'un seul jet s'élance ondulant parfois ainsi qu'un serpenteau feu d'artifice jusqu'à 60 ou 90 pieds du sol, c'est-à-dire presque 25 mètres. Les cases indigènes sont aussi plus nombreuses en cet endroit, sans être néanmoins réunies en village. Il arrive ensuite à l'entrée de la vallée Me'au, où il va nous décrire la maison de Temoana. La maison de Temoana, placée au nord-ouest de la baie, a été bâtie par l'équipage d'un navire. C'est une maçonnerie dont la façade est percée d'une porte et de deux lucarnes. Le mât de pavillon dressé à côté lui donne un air de famille avec ses petits postes de douaniers que l'on voit sur nos côtes. On trouve à l'intérieur pour tout mobilier une table et deux chaises grossières. Des nattes servent de lit, des tapas roulés de traversin. Dans un coin, bon nombre de bouteilles vides attestent les habitudes du maître de ce logis. Puis on voit, accrochés à la cloison, des oripeaux et la défroque européenne du chef. C'est tout. Oui, c'est tout, mais j'ajoute que cette maison est probablement le séjour du bord de mer de Temoana. Son grand paipai se trouve à presque 2 km à l'intérieur de la vallée Me'au. Et cette petite maison en bord de mer, qui se trouve probablement tout près de ce qu'on appelle maintenant le Paipai Pikivehine, ou bien le site de Temehea, est seulement réservé à son séjour lorsqu'il vient au bord de la mer. Peut-être même y reçoit-il des invités. Ensuite, Radige se dirige vers la plage derrière le Pai Pai Pikivehine, plage dont le nom marquisien est Tikeiehu, et voilà ce qu'il en dit. En continuant à marcher vers l'ouest à partir de cette demeure, la maison de Temuana, la végétation s'éclaircit au rivage. Là, cessent aussi les cases, donc personne n'habitait ce coin-là. On ne rencontre plus que de mauvais hangars abritant des pirogues de toute taille. La longueur de celles qui sont à sec sur la grève varie entre 4 et 6 mètres. Creusées dans un seul tronc d'arbre, celles-ci sont tellement étroites que l'équipage s'assied en même temps sur les deux bords. Les extrémités dominent à peine l'eau. On peut y entrer jusqu'à mi-jambe. Deux traverses, à l'avant et à l'arrière de la pirogue, soutiennent une pièce de bois qui formant un balancier parallèle, projeté à 1,5 mètre environ du corps de l'embarcation, plonge et donne au frêle esquif la stabilité désirable. Quelques-unes de ces pirogues destinées aux expéditions guerrières ont au moins 10 ou 12 mètres de long. Ce qui est curieux, c'est de voir comment, à cette époque-là, comme maintenant, cet espace près du cimetière de Pahatea est occupé par deux clubs de pirogues, comme dans l'ancien temps. Chers amis, j'espère que les détails de cette lecture vous auront plu. À moi, ils m'ont particulièrement plu, surtout ce qui concerne la partie de Vainaho et le site d'exposition mortuaire qui se trouvait à cet endroit-là, ainsi que le rappel de l'origine des cailloux, du caillou qui se dresse devant l'ancienne mairie. On peut ainsi évaluer ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle nous reprendrons le cours du mois de juin 1842 après l'épisode qui avait vu le retour de
Tahia Oko
auprès de son mari Temuan. Nous verrons aussi l'écrivain américain Herman Melville faire sa première visite à Nukuhiva, tandis qu'une partie de la flotte française se rendra à Uapo. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook TEO et sur mon site internet teo.com. Et merci au groupe KVE Moetai pour sa chanson militante à tout, debout, qui incite donc les gens à se dresser pour reprendre les terres que des étrangers malpolis, sans gêne et irrespectueux leur ont volées. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf, kopo, K-O-P-O, ou sur mon Vini 87 756 719. A bientôt, à Pai, au Oahu.
No te ati e natai.